Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous ? Nous en sommes au chapitre 10 de cet ouvrage qui s'intitule « Les représentations religieuses ». Lors des deux dernières émissions, nous avons étudié le judaïsme et le christianisme, c'est-à-dire la partie occidentale, finalement, au regard de l'ensemble de la planète, du monde religieux. Nous allons aujourd'hui parler des religions orientales, au contraire. Alors, nous avions dit que les religions monothéistes voyaient la vie en termes éthiques, alors j'entends par là le judaïsme, le christianisme et aussi l'islam, hein. Donc ces religions voient la vie en termes éthiques ou moraux comme un processus continu d'amélioration ou de réformation des données naturelles auxquelles l'homme collabore. À ce processus, justement, finalement, l'homme est en synergie avec lui, comme disent les chrétiens orthodoxes, en collaboration. Alors, dans cette optique-là, la vie a un sens. Et je prends sens dans les deux acceptions du mot sens, signification d'abord et direction. Signification, quel est le sens de ce texte par exemple, et direction, dans quelle direction va cette route. Mais il y a d'autres pensées dont nous allons nous occuper maintenant, en parlant des religions orientales, pour lesquelles la vie n'a pas de sens, mais seulement des formes. Il s'agit pour elle de cheminer au travers des formes, ce qu'on appelle la métamorphose, et de voir la vie de façon non pas éthique ou morale, mais je dirais esthétique, avec sur le front un pessimisme fondamental sur la vie qui est perpétuation ou auto-alimentation des souffrances. Alors vous pourriez me dire que la Bible connaît le noir désespoir, par exemple dans ses livres de sagesse. « Tout n'est que vanité et souffle du vent », dit l'Ecclésiaste ou Coëlette. « Buée des buées », comme on traduit parfois. « Tout n'est que vanité ». L'Évangile aussi peut contenir des passages très pessimistes. Ainsi, on lit dans l'Évangile « Le soleil luit sur les méchants comme sur les bons ». On peut voir là une neutralité axiologique absolue. Une équivalence des valeurs, un hasard fondamental qui peut nous déstabiliser. Alors, bien entendu, je sais que la phrase évangélique que je viens de citer est susceptible d'une autre interprétation, puisque le soleil luit sur les méchants comme sur les bons, eh bien, les méchants peuvent aussi bénéficier de la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle un universalisme théologique. N'empêche qu'on peut la voir hors contexte, peut-être, cette phrase, comme évoquant un gaspillage complet. Il n'y a pas de rapport entre ce que nous valons et le sort qui nous arrive. Alors, il faut penser donc le hasard qui est absence, non pas de nécessité, le hasard n'est pas la contingence, mais absence de finalité. Dire que quelque chose arrive par hasard, ce n'est pas dire qu'elle arrive sans cause. Il y a toujours des causes à tout, mais cela veut dire qu'elle arrive sans but, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ordonnée, cette chose, à notre désir profond. Par exemple, si je sors par un jour de grand vent dans la rue, eh bien, si une tuile tombe du toit et vient s'écraser sur ma tête en me blessant, mettons, grièvement, eh bien, de quoi s'agit-il? Cette tuile, dit-on, est tombée par hasard. Ça ne veut pas dire qu'elle est tombée sans cause. Il y avait une cause à la chute de la tuile. D'abord, il y avait une cause finale, comme dirait Spinoza, à la sortie de chez moi. Je suis sorti de chez moi pour aller, mettons, à la supérette au bord de la rue pour acheter quelque chose. Bon, d'autre part, il y avait une tempête, une dépression, un vent qui soufflait, la tuile était mal arrimée. Donc, on voit là qu'il y a une succession de causes Et finalement, la contingence n'existe pas. Contingence, ça signifierait qu'il n'y a pas de cause. Il y a une nécessité, justement, causale à l'œuvre. Simplement, eh bien, tout ce qui s'est passé n'est pas conforme à mon désir. Ça m'est tombé dessus. Pourquoi moi? Bon, ce que l'on appelle cause finale, disait Spinoza, n'est rien d'autre que le désir humain en tant qu'il est posé à l'origine d'une chose. C'est-à-dire que si je pense que il y a du but, des causes finales, eh bien, en fait, c'est que je désire qu'il y ait du but. Le sens n'est que le désir de sens et rien d'autre. Et la raison vacille devant le hasard. Le hasard, c'est l'échec du désir humain de sens qui sous-tend toutes les religions, je le répète, dont la base est morale, à commencer par les religions abrahamiques. Tout désir de justifier ce qui arrive, de moraliser la vie, c'est quelque chose qui est profondément centré en nous, eh bien, le hasard met en échec ce désir. Alors, s'agissant des Grecs aussi, il leur est arrivé de maudire la vie. Il y a un pessimisme grec. Pensez par exemple au cœur d'Œdipe à Colone, où l'on entend la chose suivante, « Ne pas naître, voilà qui vaut mieux que tout ». Et dans la Bible juive, Job, de la même façon, maudit la vie lorsqu'il est frappé. Mais de tels mouvements sont transitoires et provisoires, ce ne sont pas des derniers mots. L'amour de la vie chez les Grecs, par exemple, était très grand. L'ombre d'Achille, dans l'Odyssée, dit à Ulysse qu'il vaut mieux être un chien vivant qu'Achille mort. Mais l'Occident a finalisé la vie, je le répète, par exemple, à travers ce que dit le credo chrétien, le Christ qui pour nous et les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, oui, pour nous. Donc pour nous aider, pour nous sauver, etc. Vous avez aussi cela dans le Dies Irae chrétien, recordare Iesu pie, quatum causa tue uie, neme perdas illa die. Souviens-toi, pieux Jésus, que je suis la cause de ta venue, ne me perds pas ce jour-là, le jour du jugement. Et vous avez aussi dans le Dies Irae, tantus labor non sit cassus, c'est-à-dire qu'un tel travail, qu'une telle peine que tu as subie dans ta passion ne soit pas vaine. Donc, j'avais comparé de façon amusante, mais il faut parfois s'amuser, cette vision à celle du petit Papa Noël. Dans la chanson, il est dit « Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu dois avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. » Eh bien, c'est exactement la même chose. « Je suis la cause de ta venue. » Alors, ne vous formalisez pas. Si je plaisante parfois, c'est un blasphème peut-être pour les croyants intégristes, mais pas pour les croyants intelligents, je pense. Alors, l'homme veut toujours justifier les choses. Il n'admet pas la stricte tautologie ou la stricte immanence des choses. Il postule toujours derrière les choses autre chose, un arrière-monde qui fonde la vie. D'où ce désir de justification que Nietzsche appelait la moraline, c'est-à-dire désir de donner de la morale partout. La tautologie, au contraire, serait de dire, par exemple, quand il nous arrive une rupture, eh bien, non pas une de perdue, 10 euros trouvés, mais simplement une de perdue. Voilà. Donc, je pense aussi au Dupont, les deux détectives dans Tintin, et je dirais même plus, mais ils disent toujours la même chose. De ce point de vue, Monsieur de la Palice, qui procédait par tautologie, donc reconnaîtrait l'absurde du monde. Il n'y a pas de justification transcendante aux choses. L'absurde serait d'éclater de rire devant un crucifix, comme le faisaient les Chinois, et ce qui scandalisait effectivement les missionnaires chrétiens qui voulaient les convertir. Lorsque les jésuites, par exemple, cette phrase, éclater de rire devant un crucifix et de Bataille, de Georges Bataille, elle fonde effectivement ce que serait l'absurde. Alors, l'Orient, c'est, dont nous allons parler maintenant, c'est une définalisation totale, une attitude qui va démoraliser les choses. Je prends démoraliser entre guillemets, bien entendu, qui va enlever aux choses toute signification extrinsèque. Il s'agit donc, il n'y a pas d'arrière-monde. Et là, je reviens toujours à Nietzsche. Nietzsche voulait détruire les arrière-mondes, au sens platonicien. Les choses, disait-il, ne sont que ce qu'elles sont. Il n'y a pas derrière des idées ou des archétypes transcendants qui les font en dignité. C'est pour ça que Nietzsche disait qu'il fallait philosopher à coups de marteau, en quelque sorte. Détruire ces arrière-mondes. Alors, sur le hasard, je vous renvoie, par exemple, à des livres comme « L'ironie du sort » de Paul Guimard, qui a été repris dans « Les choses de la vie » de Claude Sautet. C'est un film de Claude Sautet, où l'on voit que, finalement, là où nous croyons qu'il y a une providence, il n'y a qu'un hasard fondamental. Tous les films du polonais Kieslowski aussi réfléchissent sur cette notion de hasard, mettent en scène le hasard. Nous voulons toujours que tout ce qui nous arrive ait un but, un sens. Mais c'est finalement une illusion par rapport à la métaphysique hindouiste dont nous allons parler maintenant. Voilà. Alors, en opposition avec cette attitude consistant à finaliser la vie, à voir dans tous les processus de la vie une providence à l'œuvre, se situe, je dirais, la métaphysique de l'Inde. Alors, il faut savoir que toute la culture de l'Inde repose sur un pessimisme fondamental. Selon la loi du karma, tout homme récolte ce qu'il a semé. Et chacun aussi a son lot, son destin. Il doit figurer selon des normes dans la vie qu'il mène. Cela s'appelle le dharma, D-H-A-R-M-A. C'est l'équivalent de la persona jungienne, c'est-à-dire le rôle social que l'on joue auprès des autres. Mais l'essentiel, c'est ce karma. Toute action engendre pour son auteur des conséquences imprévisibles, et puis nous portons le poids de toutes nos actions. Alors c'est un fait que agir, c'est effectivement déclencher un processus que l'on ne peut pas modéliser. Tout homme récolte ce qu'il a semé. Karma. À ne pas confondre, je répète, avec dharma, qui est le rôle que nous jouons. Alors, d'autre part, la métempsychose ou la transmigration des âmes, les réincarnations successives, c'est quelque chose qui sous-tend effectivement la pensée indienne. Alors, ce n'est pas, comme nous pourrions le penser, une perspective consolante ou enviable de se réincarner, c'est-à-dire avoir une nouvelle vie, une perspective consistant à échapper à la mort. Mais c'est au contraire une fatalité. La survie, c'est un poids à porter. Donc vous voyez que la métempsychose est un peu un faux ami, ou la réincarnation. Pour nous, nous avons tellement peur de la mort que nous cherchons peut-être, dans l'adhésion à ce dogme, la possibilité d'une survie. Tandis que pour l'âme indienne, au contraire, c'est une fatalité, on doit se réincarner. Et le but à atteindre dans la vie, c'est d'échapper à ce cycle des réincarnations où l'on alimente la souffrance qui ainsi perdure. Alors évidemment, dans la pensée indienne, il n'y a pas d'humanisme. Par exemple, les hommes et les animaux sont mêlés et s'interpénètrent, ce que manifestent les divinités zoomorphes ou monstrueuses. Zoomorphe, ça veut dire qu'il y a un côté animal, par exemple Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, etc. Donc, les hommes et les animaux sont mêlés en Inde. L'idole aux multiples bras aussi montre que la vie universelle dépasse largement celle de l'individu et atomise l'individu. Je pense à Shiva dansant dans sa roue de flamme. Il a une, je ne sais plus combien de bras, mais enfin, il en a plus de deux. Cela veut dire que la vie finalement nous englobe et nous ne sommes que une goutte d'eau dans l'océan en quelque sorte. Alors c'est vrai que les pythagoriciens croyaient aussi à la métempsycose, et en général les philosophes grecs qu'on dit pré-socratiques participent de la pensée indienne. Par exemple, il y a un livre de Sri Aurobindo qui s'appelle « De la Grèce à l'Inde » qui montre bien cette filiation. Alors, quant à l'instinct, l'Inde subit l'instinct. Regardez par exemple un nu indien sur les bas-reliefs, il est lascif, il est érotique, il manifeste une torsion, un déhanchement, tandis qu'un nu grec à côté apparaît totalement chaste. Malraux, par exemple, dans ses œuvres esthétiques, a juxtaposé deux photographies à un tournant d'un chapitre, un nu indien qui subit l'instinct par la torsion, et le nu grec qui apparaît à côté d'une grande chasteté, comme je viens de le dire. Ça voudrait dire que la Grèce pense que l'être humain se peut se libérer de l'instinct, de la pulsion, et la culture se voit directement aussi dans les formes de l'art. Regardez les images indiennes, c'est aussi important que de lire les Védas ou les Upanishads, etc. Alors il est très curieux que l'Inde valorise la joie des sens et que sa métaphysique soit si pessimiste, alors que chez nous c'est l'inverse. La joie des sens chez nous est culpabilisée, depuis 2000 ans de christianisme, vous voyez l'ancratisme, c'est-à-dire le refus justement de la sexualité, mais l'idéologie, les représentations mentales chez nous sont optimistes. Donc il y a ici ce que j'appellerais un chiasme, c'est-à-dire un entrecroisement. Le mode de vie indien paraît optimiste, et la métaphysique, la pensée, est très pessimiste. Alors que chez nous, notre pensée, notre métaphysique est optimiste, puisque nous pensons justement à un progrès dans les choses, vous voyez le début de la Genèse, et au contraire, notre façon de vivre est pessimiste. Nous avons maudit la sexualité, par exemple. Rien chez nous n'équivaut au linguam, c'est-à-dire au phallus sacré, ou bien au Kama Sutra de l'Inde, les postures érotiques, ou bien même à l'érotisme tantrique. La Kundalini en Inde, c'est l'énergie sexuelle, elle est comparée à un serpent dressé. Et l'union, justement, du sexe masculin et du sexe féminin, le linguam et la yoni, c'est quelque chose qui est très familier, justement, dans les représentations de l'Inde. Les parties du corps que les anciens appelaient sacrées, les chrétiens les ont appelées honteuses, en latin pudenda. Il suffit de voir le contresens qu'on a fait chez nous pendant longtemps sur la faute d'Adam et Ève dans la Genèse. Pour beaucoup encore, croquer la pomme, c'est faire l'amour. Et inversement, je le répète, nous avons un optimisme fondamental dans l'amélioration du monde. En fait, nous ne pensons pas que suivre son instinct soit être libre. Et l'Inde, au contraire, acquiesce à l'instinct et célèbre, dans ses sculptures, dans ses représentations plastiques par exemple, ce qu'elle subit. Alors c'est une vision qui n'est pas morale du tout, elle n'est pas insurgée contre la nature, c'est une vision, je dirais, esthétique, qui adhère aux pulsions naturelles et qui, finalement, ne culpabilise pas le corps. Ce qui incarne tout cela, c'est la danse de Shiva. Alors, il faut savoir que, comme il y a une trinité chrétienne, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, il y a une trinité hindouiste. Vous avez Brahma, celui qui crée, vous avez Vishnu, celui qui maintient, et vous avez Shiva, celui qui détruit. Donc, Shiva, c'est comme Dionysos, le dieu de l'acquiescement à la vie, et la vie aussi est destruction. Et en fait, il faut acquiescer à la diaprure des choses, à leur robe des choses, à leur volubilité inépuisable. Mais il faut bien remarquer que derrière tout cela, il y a une grande duperie. Nous ne voyons pas la réalité des phénomènes, mais nous voyons un jeu, un leurre. Les dieux s'amusent de nous en agitant devant nos yeux un voile, comme le matador à la corrida agite devant le taureau la cape ou bien la muleta. Ce leurre en Inde s'appelle la maya. M-A-Y-A. Alors ne faites pas de contresens là-dessus. Maya, autrefois, c'était un dessin animé qui représentait Maya l'abeille, il y a bien longtemps. Hein. Maintenant, Maya, c'est le jeu divin, hein, le jeu divin, ce jeu des dieux qui s'appelle aussi Lila. Alors, Maya, c'est le voile. Hein, et les dieux s'amusent en mettant devant nos yeux un voile. Et ce jeu divin s'appelle Lila. Et alors, pour la plupart, il faut consentir à la Maya. Hein. Le fleuve, à cet égard, c'est la meilleure métaphore de la vie, comme Hermann Hesse le montre dans Siddhartha. La philosophie de l'Inde, donc, est musicale. Il faut saisir les harmoniques de la vie, tout souci de moralisation des choses étant mis de côté. Par exemple, les fables de La Fontaine en Occident participent de cet esprit. Hein. Voici ce que dit La Fontaine. Tout est prévention, cabale, entêtement, point ou peu de justice. C'est un torrent, qui faire? Il faut qu'il ait son cours, cela fut et sera toujours. On pense à ce que dit Lucrèce dans le De Natura Rerum, toutes choses sont toujours les mêmes, et adem sunt omnia semper. Donc c'est une grande philosophie, une philosophie des plus hautes, hein, qui est évidemment fataliste. Hein. C'est un des pôles orientaux de l'âme. Alors, adhérer à la musique de la vie. On dit que Socrate, le grand sage intellectuel, à la fin de sa vie, voulut apprendre la musique. Il ne savait pas danser, et il a voulu apprendre la musique. Eh bien, il faut retenir cette leçon. En Occident, on ne sait pas assez danser. Je reviens à ma danse de Shiva, hein. Il faudrait sentir la musique de la vie, adhérer à cette danse. Les hommes sont comme des moustiques qui dansent dans un rayon de soleil. Ce sont des pans de poussière dansante, diaprées d'éternité, pourrait-on dire. Hein. Alors, tout se passe dans la vie. Une filleurie, par exemple, et un cœur bas. Hein. Bon, tout est bien, tout est dans l'ordre. C'est une justice absolue qui est tissée aux veines même du monde. Adhérer à cette musique. Nietzsche lui-même disait « Sans la musique, la vie serait une erreur. » Et Céline dit, je crois dans Le Voyage, hein, il dit que, à propos de quelqu'un qui est déprimé, il dit « Il n'a pas assez de musique en lui pour faire danser la vie. » Il faudrait toujours avoir assez de musique en soi pour faire danser la vie. Mais nous avons, comment dire, une obsession d'un Dieu unique qui nous regarde, un Dieu transcendant, hein, et cette transcendance, elle nous paralyse. Et alors, pour l'Inde, ça serait plutôt, en jouant sur les mots, la transe en danse, trouver une transe en dansant, en quelque sorte. D'ailleurs, chez nous, les danseurs ont été décrétés hérétiques. Il y avait, par exemple, des élicites, des gens qui célébraient Dieu en tournant autour d'eux-mêmes, un peu comme les derviches tourneurs. Hein. Eh bien, ils ont été décrétés hérétiques, comme je l'ai dit dans mon petit lexique des hérésies chrétiennes, paru chez Albin Michel. Hein. Donc, la danse, bien sûr, qui a été proscrite dans les églises, existe quand même, hein, aujourd'hui, dans les mouvements charismatiques. Hein. Il y a le rythme noir que vous avez dans le gospel, hein, etc. Mais là, il n'y a pas d'intériorité. Dans le grégorien, au contraire, vous avez une grande intériorité. Hein, mais dans la danse de ces mouvements, qui sont minoritaires quand même, hein, eh bien, il n'y a pas de retour au fond de soi-même. Donc, sur cette philosophie musicale de l'Inde, je pense à un film, un roman d'Antonio Tabucchi qui s'appelle « Nocturne indien », et un film d'Alain Corneau, qui a le même titre. Hein. Alain Corneau est passé du jazz, il aimait Coltrane, hein, à l'Inde. Et Corneau est aussi l'auteur de « Tous les matins du monde », qui concerne la musique baroque de Monsieur de Sainte-Colombe, janséniste du XVIIe siècle. Alors ce film est tiré d'un texte de Paul Quignard. Donc vous voyez, je pense que cette musique nous surprend, hein. Nous ne voyons pas la vie comme une musique, et cependant, c'est quelque chose de fondamental si on regarde Shiva dansant. Alors sur la Maya, Il faudrait comparer l'allégorie de la caverne dans la République de Platon, au livre 6. Hein. Shiro Aurobindo disait dans un livre qui s'appelle « De la Grèce à l'Inde » qu'il y a un fond commun entre la Grèce et, au niveau, si vous voulez, de la culture indo-européenne et l'Inde elle-même. Hein. Une adaptation indienne récente de Madame Bovary s'appelle « Maya Mensab », c'est-à-dire « Madame Illusion ». Donc « Maya », l'illusion. Hein. Alors, comment voir la Maya, hein, ou bien on y adhère complètement à cette robe des choses, hein, ou bien alors on en voit la version un peu négative, hein, puisque finalement la vie étant illusion, la réalité détruit cette illusion. Par exemple, si vous allez au cinéma, vous allez voir un western, bon, eh bien, vous avez les gesticulations des protagonistes sur l'écran, le bruit et la fureur du film, le bruit des coups de revolver, par exemple, les coups de feu, etc. Bon. Mais ensuite, quand le film est fini, le rideau se lève, le rideau, les lumières s'allument dans la salle, et l'écran est tout blanc. L'écran est tout blanc. Donc, les coups de feu n'ont pas agi sur l'écran. Hein. Rien de ce que vous avez vu, qui est la Maya, précisément, n'a affecté la toile blanche de l'écran. Je pense aussi à ce que dit Mallarmé dans Salut, à la fin de Salut, c'est un dans son recueil de poésie, hein. Solitude, récif, étoile, en importe ce qui valut le blanc souci de notre toile. Donc notre vie est comme un théâtre d'ombres agitées, c'est ça la Maya, sur un écran ultimement blanc. Et alors cet écran blanc, c'est Brahma, la réalité ultime. Il faut donc se dissoudre dans le tout, hein. Il faut donc opérer la fusion du moi, Atman, hein, et de Brahma, la réalité ultime. Donc cette vision, finalement, je le répète, est esthétique, hein. N'est pas du elle est définalisée, elle n'a rien de moral, si vous voulez. Alors positivement, on peut arriver à la danse et à la musique. Hein. Si la vie est un pont entre deux néants, hein, c'est peut-être ça la vie, un pont entre deux néants, entre deux éternités de nuit, l'éternité qui précède la naissance et l'éternité de nuit qui suivra la mort. Hein. Avant la naissance, il y a la nuit, après la mort, il y a la nuit, avant la naissance, il y a le non-être, après la mort, il y a le non-être de nouveau, et pendant la vie, hein, ce bref instant, il y a le non-sens, ou l'absurde. Donc là, je commente un livre de Henri de Montervent qui s'appelle « Le chaos et la nuit ». Pendant notre vie est chaotique. Alors que faire? Si la vie est un pont entre deux néants, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, tout simplement, comme sur le pont d'Avignon, y danser. Danser sur un pont, hein. Sur le pont d'Avignon, on y danse, etc. Hein. Donc, gaudeamus sigitur, comme on dit en latin, c'est-à-dire réjouissons-nous par conséquent. Hein. Donc, sentir la musique de la vie, sentir les fulgurances, voyez le début et la fin de l'éducation sentimentale, ce fut comme une apparition, Frédéric voit Madame Arnoux, et ce fut tout, à la fin, hein, 400 pages au milieu, toute une vie entre deux instants. Alors, si tout n'est qu'illusion, la musique peut être, évidemment, à l'unisson de cette idée. Hein. Je pense au raga indien, par exemple, aux chansons de Sushila Raman. Hein. Il y a une chanson de Sushila Raman qui s'appelle Maya, que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà, eh bien, je m'en tiens là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, où nous continuerons cette réflexion sur la pensée orientale. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.